On va pouvoir reprendre avec cette deuxième partie en tout cas sur la première intervention, nous allons nous concentrer un petit peu plus sur le répertoire pour percussion de taïra et sur deux éléments qui semblent tout à fait caractéristiques, donc l'alliance entre cri et silence. C'est vraiment sur ce point que Huimei va intervenir. Donc pour revenir un petit peu sur ce qui a été fait la matinée, on est vraiment dans le prolongement puisque on a vraiment pu aborder les spécificités esthétiques de ce compositeur. Bon, là on va pouvoir le voir sur un point plus précis. Et donc on aura une deuxième intervention qui sera menée par Jacques Gilbert qui nous a rejoint et qui sera dans le prolongement de ce qu'a pu faire Florent Caron aujourd'hui, et puis Alain Poirier aussi, évidemment, où on se réinterrogera sur cette notion de perception, mais avec une approche, et d'écoute, de réception, mais avec une approche qui sera quelque peu différente. Donc là, on est vraiment dans cette partie qui va aussi servir de préambule au concert de ce soir, où je vous rappelle qu'il y aura deux œuvres de Taïra, notamment Hiérophonie 5, dont on a pu parler ce matin déjà, Trichromie, et puis aussi une œuvre de Takemitsu, assez emblématique de sa production, et une œuvre de Minoru Miki. Donc je vais donc laisser la parole à Huimei, qui va donc développer un petit peu plus les spécificités de ce répertoire pour percussion à travers la problématique du cri et du silence.
Merci Nicolas. Je renouvelle mes remerciements à Nicolas Manque et à M. Claude Bouillanté et aussi au lycée Livette d'avoir organisé cette journée de rencontre. Et puis, je suis très honorée, encore une fois, de pouvoir participer à cet événement qui fait partie de la célébration centenaire du lycée Livette. Et puis, on a pu apporter ce matin, par les diverses communications, sur l'aspect du silence et du cri dans la musique des compositeurs japonais comme Yoshihisa Taiha et Toru Takemitsu. Et dans la conception occidentale, on ne conçoit pas le silence comme conception de densité dans la musique, mais pour les Japonais, on a pu le voir à travers l'extrait de film que M. Alain Poirier nous a fait voir que l'aspect du cri et du silence apporté dans la musique du film de Toru Takemitsu. Et moi, j'avoue que je suis assez stressante de parler devant quelques spécialistes de la musique de Taïra, notamment les percussionnistes qui sont dans la salle. Et aussi devant le rapporteur de ma thèse. Mais heureusement, j'ai déjà eu mon doctorat. Bon, le rapporteur de ma thèse, c'était monsieur Alain Poirier. Donc, je vais y aller quand même, que vous me pardonniez mon français imparfait. Bon. Les œuvres pour percussion, je pense, sont des plus jouées du catalogue de Taïra. Comme pour ses œuvres pour flûte aussi, mais certaines de ses œuvres pour percussion deviennent déjà comme un répertoire standard pour tous les percussionnistes du monde entier. Et Hiérophonie 5 pour 6 percussionnistes que nous aurons le plaisir de l'entendre ce soir et joué par tous les ensembles du monde. Et ça fait l'objet de l'enregistrement de plusieurs ensembles de percussions. Donc, on peut, à travers cette communication, voir comment l'aspect du silence et du cri a été apporté dans cette musique, notamment dans Hiérophonie 5. Et puisque certains d'entre vous n'étaient pas là ce matin, je vous rappelle très rapidement quelques éléments biographiques ou quelques caractéristiques de la musique de Taira qu'on a apporté ce matin. Alors, qui est Yoshihisa Taira? Il est né en 1937 à Tokyo dans une famille de musiciens et il a baigné dans la musique occidentale dès son enfance et le choc pour lui a été entendu la musique de Claude Debussy pour piano, la cathédrale engloutie. Et dès lors, il a décidé de devenir un compositeur et il a souhaité de venir en France pour faire ses études. Il a eu ses récompenses pour sa musique et on a apporté ce matin qu'à travers ses titres, on peut distinguer différentes périodes de la création. C'est-à-dire, avant 1968, il a des titres pour des formes classiques. Et à partir de 1969, le cycle de hiérophonie, il invente souvent des titres qui font appel aux Grecs anciens. Et il a ces titres souvent composés d'un mot seulement, et c'est un mot composé par lui-même. Donc, et le cycle de hiérophonie comprend 5 pièces. Donc, on peut consulter, oui, on a parlé un peu de sa musique comme c'est toujours écrite sur commande. Donc, il y a la prise en compte de la réalité instrumentale et puis une musique au caractère intuitif. On peut consulter cette liste des œuvres avec percussion de Taira. Vous voyez l'importance que s'occupe des œuvres pour la percussion dans son catalogue. Dans le processus d'une évolution relativement lente du langage musical, il existe souvent une trace qui permet de se souvenir de ses pièces précédentes. Une continuité de la pensée musicale s'observe dans l'ensemble de l'œuvre de Taira. Donc, nous nous concentrerons donc de nous concentrer sur Hiérophonie 5, l'œuvre la plus jouée de Taira et que nous allons l'entendre ce soir. Et Hiérophonie 5 pour six percussionnistes est la première pièce pour percussion seule de Taira, composée entre 1974 et 1975. Hiérophonie 5 fut une commande du ministère de la Culture et du Festival du Royaume. Dans un entretien, Taira avoue que, je cite, « écrite pour les percussions de Strasbourg était à l'époque un rêve pour les jeunes compositeurs. En 1973, le directeur du Festival du Royaume me l'a proposé. Mon but premier a été de mettre en musique les actes primitif de l'homme, comme frapper et crier. » Alors, le cri et la prière constituent des notions fréquemment évoquées par des créateurs de tous les domaines artistiques au Japon. Ces deux notions contradictoires de premier abord coexistent pourtant toujours chez les artistes japonais et aussi chez Taira, dont la musique est caractérisée par d'extrêmes contrastes. Nous proposons ici l'exemple des deux premiers portés attentés de Maya. Pour flûte basse en ut ou flûte en sol, pour illustrer l'utilisation du cri chez Taïra. Dans ce court extrait, on peut déjà sentir la coexistence du silence et du cri dans la musique de Taïra. Et dans Hiérophonie 5, le cri précède l'intervention percussive. Les deux formants sont toutes un couple dont les thèmes sont indissociables. On peut remarquer d'une part le cri réel de la voix de l'interprète et le cri symbolisé par l'extrême force du bruit, c'est-à-dire le son de souffle, le sforzando et la nuance fortissimo. D'autre part, la prière symbolisée par l'extrême silence, la nuance pianissimo plus indication dans le silence total, qui vient interrompre la violence du cri en étirant le temps le plus long possible et en installant l'immobilité. On va écouter, malgré le conseil de ce soir, on va écouter un petit peu le début de Hiérophonie 5. Alors, dans cet exemple, est-ce que vous entendez bien? Le son est assez fort. En peu de temps, une extrême tension est créée par la juxtaposition des éléments. Le contraste peut s'observer dans plusieurs éléments et niveaux. Le cri de la voix humaine de l'interprète et le son de l'instrument. Le son du souffle et le son normal. La nuance extrêmement forte et la nuance très faible. Les groupes de notes brefs, des intervalles espacés et les notes tenues quasi immobiles. Cette juxtaposition d'éléments contrastés est génératrice d'une tension qui est maintenue et non résolue. Le compositeur ne cherche pas à construire des mouvements qui visent à synthétiser ces éléments contrastés. Nous pouvons considérer donc cette caractéristique si volontairement voulue par le compositeur comme une réflexion de sa propre vision du monde. Car pour lui, je cite, « le monde est fait de contrastes ». Fin de citation. Si l'on voit la première portée de cet exemple comme un véritable cri, la deuxième portée, quant à elle, pourrait être une métaphore d'une prière. C'est on peut voir à travers cet exemple. La musique de Taïra est souvent décrite comme très violente. L'expression de cette violence utilisée dans un contexte musical devient un code à caractère polyvalent. Cela se traduit souvent dans l'œuvre de Taïra directement par le cri, un cri exécuté par la voix humaine ou par l'écriture instrumentale. Dès le début de sa carrière, le cri constitue une notion très importante de son approche musicale. Dans les œuvres pour flûte de Taïha, le cri se dégage souvent d'un son strident dans un registre aigu avec une nuance très forte que le compositeur convoque souvent à la petite flûte. Le résultat de cette sonorité acide et dérangeante montre aussi un autre emploi du cri que celui de libérer la force intérieure. Le cri en tant qu'élément sonore. C'est la même notion que le cri liminaire de certains morceaux, par son caractère nerveux et changeant. Des enchaînements brutaux d'un passage calme à un passage violent sans transition, par la cohabitation des éléments opposants, par son geste théâtral. Le geste des interprètes constitue une partie importante dans la musique de Taïha. Le fait de pousser un cri exige une concentration extrême, et l'acte de l'interprète n'est plus le même. Il exige un geste certain de la part du musicien. L'univers musical de Taïha, par son caractère violent, fait alors penser à l'univers théâtral de Antonin Artaud, en référence à la violence verbale de l'écrivain. Taïha affirme qu'il n'a jamais pratiqué aucun art martial, mais il a été fasciné par une démonstration de Iaito à l'âge de 17 ans. Iaito, c'est l'art de tirer le sabre. Cette fascination est toujours restée présente dans son esprit et il a traduit de différentes façons dans sa musique. Tantôt par des cris humains, tantôt par l'énergie extrême qui se dégage de l'interprétation d'une nuance très forte exécutée par tout un ensemble. Ce qu'il cherche est une explosion d'énergie. Comme on a peu d'occasion d'entendre l'œuvre orchestrale de Taïha, je me permets de vous faire entendre une toute fin du premier mouvement de méditation pour orchestre qui a été écrite en 1977. Ça, c'est le début. Le début de ce premier mouvement, on perçoit déjà la juxtaposition du silence et de la violence dans sa musique. Et la fin de ce mouvement. Et ça s'enchaîne directement, le deuxième mouvement, sans transition. Et on voit à travers cet exemple le rôle très important que joue la percussion, même dans la pièce pour orchestre. C'était le point culminant de méditation, et on voit que toute cette partie est développée à partir de la fin du premier mouvement, ce 14 coups homorythmiques. Et toujours, on trouve la cohabitation du silence et des coups très violents aussi. Autre forme de... En tant que la manifestation la plus aiguë de la libération d'un son vocal, le cri est directement exprimé dans Retour, la presque dernière pièce de Taïra en 2003 pour soprano et petit ensemble instrumental. Alors, dans la deuxième partie, par l'interjection « ah » de la voix, tout d'abord, et ici, dans cette partie, la voix ne chante plus, elle crie. Elle est privée de parole. L'auteur semble vouloir théâtraliser le geste vocal et lui donner une fonction dramatique. Le cri est un prolongement du geste. Le cri est inscrit aussi dans la tension d'une écriture dense qui met la voix et les instruments en concurrence dans la partie centrale de cette partition. Voici. Oui, attends. Oh là là. Ça ne marche pas.
Vous n'avez pas su votre...
Oui.
Son de temps.
Ah bon? Attendez, mais... Les retours, on entend ça?
Non, moi j'entends rien.
C'est pas très fort, mais on entend.
Et attendez, qu'est-ce que c'est ça? Sinon, dans mon... Bon, attendez,
mais
attendez, ça ne va pas marcher, on va... Et c'est pas grave. Bon. Bon, attendez, c'est pas grave. Mais, bon, autre forme de poétisation du son, le cri transcende la nécessité de la parole. Nous pouvons comparer le cri chez Taïra avec les propositions dont on a Arto, pour qui le départ de la création artistique se présente comme un bouleversement interne de toutes les satisfactions du langage et de l'énoncé. Le cri est le prolongement acoustique du geste. Je cite, « Je pose en principe, dit Antonin Artaud, que les mots ne veulent pas tout dire et que par nature et à cause de leur caractère déterminé, fixé une fois pour toutes, ils arrêtent et paralysent la pensée au lieu d'en permettre et d'en favoriser le développement. » Fin de citation. Si beaucoup d'œuvres de Taïra débutent par un cri traduit par un coup très fort et violent qui surprend l'auditeur pour ainsi attirer son attention, et se termine en revanche souvent par une prolongation de la résonance du dernier son, comme si, après l'avoir surpris, il invite à imaginer un son sans fin, comme une prière qui s'adresse à l'au-delà. On a pu voir dans la communication de Florent Caron de cette matinée un extrait musical composé par un compositeur japonais qui est marqué, qui laisse à l'infini à la fin de la pièce. Et c'est chez beaucoup de compositeurs japonais, ils ont l'habitude de concevoir la fin d'une pièce qui n'est pas encore finie, qui était prise de relayé par autre chose que n'entend pas par des notes. Alors, mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu par révélation vers lui des sentiments, des méditations, telle est la définition de la prière selon le dictionnaire de la langue française, le Petit Robert. Cette même référence cite la phrase de Gide. La prière est la forme oratoire de l'âme et celle de Bernanos. Je sais parfaitement que le désir de la prière est déjà une prière. Takemitsu croit que l'esprit d'une pièce musicale commence souvent par une prière. Au lieu d'observer le monde extérieur comme s'il était un objet, nous avons besoin de le laisser entrer en nous. Il deviendra alors une partie de nous à travers un silence méditatif. Ainsi, il pense que la forme en musique est une version plus intense de la cérémonie de la prière. Musicalisée, la prière n'est pas séparable de la totalité de l'expérience religieuse, même pour quelqu'un comme Taïra, qui n'appartenait pas à une religion particulière, car la prière, servant par-dessous toute la croyance, reste le seul verbe mythique qui donne forme artistique au dialogue avec le divin ou le sacré. Dans L'homme nu, Claude Lévi-Strauss écrit « Quand le mythe meurt, la musique devient mutique de la même façon que les œuvres d'art, quand la religion meurt, cesse d'être simplement belle pour devenir sacrée. » Fin de citation. Taïra déclare à maintes reprises que « C'est le chant instinctif d'une prière qui me fait être. » Fin de citation. Les divers aspects de son œuvre, tels que le style incantatoire comparable à celui de Jolivet, que nous avons vu un petit peu ce matin, comme, notamment par l'usage obsessionnel de la répétition, la régulation de l'œuvre en cycle, l'organisation symbolique du discours musical, appellent à la notion de la prière. Dans Trichromie, que nous allons entendre ce soir aussi, qui a été écrite en 1972, l'œuvre pour trois percussionnistes, la pulsation initiale semble perdurer quelque temps après avoir été arrêtée, et son retour se fera sans ostentation, comme si elle avait couru souterrainement sans que nos oreilles primitives aient pu l'entendre. Cette utilisation est comparable avec l'ossidato incantatoire du 4e pupitre de Hiérophonie 5. Après une courte annonce de l'entrée de la dernière partie dans une nuance très piano, quasi inaudible, la combinaison rythmique très simple formée par une croche, et une double croche devient l'ostinato de toute partie finale de Hiérophonie 5. Le rôle confié aussi au 4e pupitre dans cette 3e partie de Hiérophonie 5 est extrêmement intéressant. Cette formule rythmique répétée doit ses sources d'inspiration à la célèbre formule rythmique répétée de danse des adolescentes du Sacre du printemps de Stravinsky. Mais elle se dégage surtout un fort lien avec la tradition japonaise également. Malgré l'emploi de tambours africains, le son de cette formule ostinato devenant plus en plus fort jusqu'à la fin rappelle celui des tambours dans les fêtes populaires japonaises, omazuri. Au Japon, on ne conçoit pas de festivités sans l'accompagnement de taiko, de tambours. Le son de ces tambours de fête qu'on nomme mazuri taiko fait partie d'un souvenir très important pour tous les Japonais. Il ne s'agit pas d'une musique noble comme le no ou le gagaku. La musique de fête est populaire, elle est ancrée dans le rythme de la vie. Au Japon, chaque village, chaque saison a sa fête, ses danses et ses chants. Pour les grandes fêtes, monter sur une estrade élevée autour de laquelle se déroule le bon Otori, danse d'évocation des morts. les grands tambours otaiko. Ces tambours aux sonorités profondes se retrouvent dans l'ensemble de la tradition musicale japonaise et accompagnent toutes les festivités et aussi les danses rituelles. Le cri lancé par les percussionnistes au début de Hiérophonique 5 a une forte relation avec l'interprétation de la percussion traditionnelle japonaise, surtout avec le taiko de fête où le cri fait partie du jeu. Dans Hiérophonie 5, l'auteur n'évoque à aucun moment une sonorité rappelant celle du Japon. Il souligne seulement qu'on entend le tambour de la fête populaire, comme plus tard il souhaite entendre les sons des tambours d'une fête d'un village. Même si on va écouter ce soir Hiérophonie 5, on peut peut-être déjà... Attendez. Entendre un peu la fin de la Hiérophonie 5. Ça c'est le passage de la première partie à la deuxième partie. C'est pour vous montrer la coexistence du silence et du cri. Quasiment rien. C'est la force de la musique japonaise. On passe déjà à la dernière partie, à la fin où il y a Ostinato du quatrième pupitre qu'on entend bien. Vous entendez l'ostinato? C'est ce ostinato rythmique. Désolé, tout à l'heure, j'ai fait enchaîner deux extraits différents. Le passage de la première partie qui est très bruyante et passé à la deuxième partie qui est très très silencieux, qu'on entend pratiquement rien. Je me souviens que la première fois, j'ai écouté l'enregistrement des percussions de Strasbourg pour cette pièce et je croyais que la machine était arrêtée parce que j'entendais rien du tout. Alors c'est le silence voulu que beaucoup de Japonais connaissent à travers leur musique traditionnelle, par exemple la musique de no, ou à impressionné Pierre Boulez aussi, qu'il semble que le temps dure éternellement et que le silence qui précède un cri est si intense. C'est impressionnant, cette cohabitation du silence et du cri chez les artistes japonais. À travers l'univers des contrastes existants dans sa musique, Taiha nous dévoile sa vision de voir la base de toutes les choses venant de la tension des principes opposés. La haine et l'amour, la lumière et l'ombre, le père et l'impère. Cette idée se trouve aussi dans la philosophie orientale, comme celle de Tao, où l'équilibre est obtenu par l'existence des éléments en opposition. Dans un entretien, Taiha affirme que, je cite, « Pour moi, le monde est fait de contrastes, bonheur, malheur, amour, haine. Il est difficile de trouver un intermédiaire entre ces extrêmes. C'est pour cette raison que ma musique est toujours très contrastée. Elle ne se veut jamais aimable ni souriante. Malgré sa violence, continue ou non, on peut apprécier sa finesse et son raffinement. Du moins, je l'espère. » Fin de citation. Si la musique assume une partie des fonctions que la religion remplit chez certains et qu'elle exerce, la fonction d'interrogation sur le monde, le cri et la prière forment une paire de cette fonction. Même si leur apparence les situe aux antipodes. Ils sont en effet indissociables comme les deux faces d'un même objet. L'aspect paradoxal combinant le cri et la prière dans la musique de Taiha en constitue un des attraits. L'enchaînement direct des caractères opposés dans la mini-structure et la macro-structure d'une pièce au niveau des nuances, de l'instrumentation, tous ces éléments prouvent cet aspect. Le cri des interprètes intégré dans la musique comme dans le cas de Maya ou Hiérophonie 5. Le cri traduit par le coup homorythmique de l'orchestre dans Méditation présente ainsi un énoncé contenant une charge énergique considérable. Autour de ces énoncés violents, le silence s'introduit efficacement. Cela peut être interprété comme une volonté de transformation spirituelle dans la musique. Le cri est toujours associé avec le silence dans la musique de Taiha. Et ce cri et ce silence sont ensemble avec la dimension incantatoire de sa musique, évoquent la notion de la prière, transforme aussi une sorte de religion première, une forme de transcendance de l'être humain. Le silence se traduit aussi graphiquement dans les notations chez Taiha par l'emploi, voire l'invention de plusieurs signes pour indiquer ces différentes durées que Florence a déjà évoquées un petit peu ce matin. On peut voir les signes graphiques du silence utilisés par Taiha. Et le silence et le cri alternent de façon naturelle dans sa musique. Si beaucoup de ses partitions commencent par un fortissimo et se terminent en revanche très souvent dans un silence avec l'indication molento, disparaître petit à petit, comme l'a cité déjà ce matin par Florent. Comme si Taiha voulait laisser entendre la résonance dans l'air du son imaginé par l'auditeur. Pour lui, le son et le silence sont indissociables. Il semble que pour les Japonais, le monde de l'au-delà coexiste avec le monde réel. Il n'est pas besoin d'être grand clair pour comprendre que les Japonais ont une certaine attirance à l'égard de l'étrange et du bizarre. Le cinéma, la littérature, la légende et les fêtes au Japon nous rappellent constamment cette fascination, comme on a pu voir à travers la communication de cette matinée présentée par M. Alain Poirier. Alors, si à l'audition de la musique de Taïra se décale quelques aspects particuliers qui proviennent de l'utilisation des modes de jeu des instruments rappelant la sonorité de la musique japonaise, comme le cri des voix humaines qui fait appel aux arts martiaux, mélangé avec le jeu des instruments, l'importance du silence reflétant la valeur de la pensée traditionnelle, donnant ainsi une impression japonaise. Sa formation musicale est pourtant purement occidentale. Par conséquent, la notation précise de sa partition, la rigueur de l'écriture, la façon de faire évoluer le discours musical, les instruments utilisés, la fermeté de l'organisation formelle constituent le versant occidental de cette musique. Sa pensée musicale est en effet l'alliance de deux mondes différents, voies opposées. Un monde de la dualité, chez Taïra, réside en premier abord en les deux cultures qui cohabitent en lui, le Japon de son origine et l'Occident de sa formation. Cela se manifeste dans sa musique par plusieurs aspects. La juxtaposition des éléments d'opposition, la conception du ton et celle du son, la notion de la forme, l'écriture, la notation graphique, l'instrumentarium et l'instrumentation, la sonorité particulière, aspect mélangeant de la modernité et la tradition. Tout cela est responsable de cet univers double chez lui. Je ne vais pas prolonger ma communication plus longtemps, car je souhaite avoir un échange avec vous, le public, que je sais parmi vous, il y a des experts de la musique de Taïra pour percussion, que je vous laisse la parole pour la partie après la communication de M. Gilbert. Je vous remercie de votre attention.
Donc peut-être effectivement en profiter à la suite de cette intervention, soit pour des interventions effectivement, ou en tout cas pour des questions éventuelles qui pourraient être relatives à ça. Moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est que, bon, avec cette intervention, évidemment, avec mes collègues percussionnistes, on a une pression terrible, parce qu'on va être obligé d'incarner tout ce qui vient d'être dit. Voilà, donc vous verrez, je ne peux que vous inviter aussi à venir au concert, évidemment, pour juger de vous-même si cette relation entre cri et silence est convaincante dans notre version. En tout cas, on va essayer. Et en tout cas, on a travaillé pour ça.
Et excusez-moi, est-ce que vous avez eu du mal pour lancer ce cri au début et à la fin, ou tout au long de la pièce?
Alors, c'est des moments incroyables, hein, parce que bon, je pense que mes collègues pourront confirmer, déjà quand on a eu l'occasion de jouer cette pièce, et puis dans les séances de travail, c'est vrai que la question du cri a été assez centrale. Je vois que Camille a des souvenirs assez émus, et je la comprends tout à fait. Non, c'est vrai qu'on a essayé de trouver une association qui soit la plus convaincante et la plus cohérente possible, sachant qu'effectivement, nous, on n'a pas forcément une approche et une appréciation du cri qui soit forcément correspondante, en tout cas, à ce qui peut être fait au Japon. Donc, on sert très forcément, à mon avis, une version qui doit être occidentale, très probablement, en essayant malgré tout d'être convaincant, parce que, et en même temps, ce cri étant intérieur... Il sera, si ce n'est convaincant, en tout cas personnel, ce qui est déjà plutôt une bonne chose, me semble-t-il. Et donc voilà, c'est vrai que ça a été une des problématiques, en tout cas, pour aborder cette pièce, et ce qui en constitue pratiquement l'essence, parce que, effectivement, l'instrument et l'instrumental ne peut être conçu justement sans ce cri, qui est lui-même traité en tant qu'instrument. Il est instrumentalisé, c'est un cri... Qui lui-même est instrument, qui lui-même est percussif, alors qui est soit percussif, parce que vous verrez dans la pièce quand même ce soir, que vous avez soit des cris extrêmement brefs qui sont associés justement à des groupements instrumentaux, donc ça c'est une possibilité, ou alors, comme on l'a entendu dans l'extrait, des cris qui sont beaucoup plus denses et qui ont vraiment une directionnalité et une émergence qui lui est propre. Donc ça, vous verrez, les différences de cris, c'est très marquant. Tout à fait marquant dans sa musique, les contrastes évidemment, vous verrez, avec une première partie qui met en avant certains types d'instruments, notamment les bois, les peaux, parce que bon, ça, on pourrait en parler longtemps, parce que bon, la percussion, évidemment, présente des instruments extrêmement variés, d'une richesse incroyable, et on en a vraiment une bonne présentation dans cette pièce, avec une partie centrale, pour ceux qui viendront écouter, qui est très caractéristique, avec des instruments, donc, qui est surtout des métaux dans la partie centrale, avec beaucoup de gestion de résonance, quelque chose de très poétique, qui fait évidemment référence à la nature. On a vraiment aussi dans cette pièce, ça c'est quelque chose d'important, cette opposition qui est à la fois une confrontation, mais aussi une association entre ce qui est révélateur de l'humain et aussi ce qui constitue la nature, qui est incarnée dans la partie centrale. Donc il y a toujours cette opposition très importante aussi, me semble-t-il, dans cette musique de Taïra. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, en tout cas sur cette première intervention, sachant qu'évidemment, la meilleure façon de s'en convaincre, c'est de venir au concert. Évidemment. Et Trichromie aussi, pièce très intéressante, très contrastante, mais qui présente bien aussi les potentialités des différents instruments de percussion. Très révélatrice sur ce point.
Une question.
Oui. Non, c'est pas une question. Ah.
C'est à 20h. 20h. Ici même.
Ici. Je vous rassure, pour les percussionnistes qui jouent Hiérophonie 5 ou autres pièces qui ont besoin d'un cri, que Taïha lui-même, je ne crois pas qu'il aurait pu lancer un cri très correct comme il veut, mais il avait une image. Parce qu'au Japon, beaucoup de gens pratiquent, n'est-ce pas, les arts martiaux, ou dans le film même qu'on a vu avec Monsieur Poirier ce matin, que l'homme criait comme ça, n'est-ce pas? Mais le cri qu'il imaginait, c'est avec un lien avec des arts martiaux, que c'est pas les Japonais qui peuvent, c'est pas que les Japonais qui peuvent le faire. Hein. En France, on est très fort, n'est-ce pas? Regardez tous les résultats des arts martiaux c'est qu'en France, on a beaucoup de champions du monde, n'est-ce pas? Et ces entraîneurs, ces karatékas, nous demandent de pousser le cri par le ventre. Et puis, on pourrait varier la durée du cri, n'est-ce pas? Mais c'est surtout qu'ils nous demandent de lancer le cri par le ventre. Pour dans la tradition japonaise, dans les arts martiaux des samouraïs, s'ils poussent le cri, c'est une part pour impressionner leur adversaire, n'est-ce pas? Et d'autre part, c'est pour encourager soi-même. Et parce que d'autres choses, si on nous attaque, on ne sent pas très mal parce qu'on est équipé par ce cri. Et le flûtiste Pierre-Yves Artaud, qui a créé toutes les pièces pour flûte de Taïra, il a dit qu'on ne joue pas de la même façon après un cri qui précède le son. Donc, est-ce que pour Monsieur Manck, vous avez un peu compris comment ça doit se produire, ce cri?
Non, mais on est rassuré parce que si même le compositeur... On n'a pas... Non, mais oui, effectivement, je pense qu'on a travaillé dans ce sens-là. Donc je pense qu'on sera... J'espère convaincant. En tout cas, effectivement, cette notion de cri me semble tout à fait intéressante et caractéristique dans cette musique. Et effectivement, ça a été un des points d'ancrage vraiment dans notre travail et dans la manière de l'aborder. On est très heureux, évidemment, de pouvoir présenter ce soir ce résultat au sein d'autres pièces, évidemment, très représentatives aussi de l'esthétique de Taïra. Pour Trichromie, pièce très différente, qui met en évidence des aspects avec une partie centrale quand même qui en fait la deuxième partie de Trichromie qui reprend des processus qui sont déjà utilisés dans la pièce Hiérophonie. Donc il y a vraiment cette histoire de continuité dont on a eu l'occasion de parler se retrouve effectivement puisque vous disiez que chaque pièce en quelque sorte prépare l'une ou l'autre. C'est vrai que cette première pièce Hiérophonie dans sa production, on retrouve dans Trichromie qui est 92 je crois, je sais plus, 992 me semble-t-il, où on retrouve effectivement des processus plus ou moins analogues. Donc effectivement, y a cette histoire, cette notion de continuité qui est très présente et qui est, en mon sens aussi, tout à fait caractéristique de sa musique en général et pour percussion, effectivement, en particulier. On va peut-être clore alors ce chapitre percussion, puisque le concert en sera, j'espère, l'incarnation ce soir. J'espère qu'on vous fournira de bons exemples de ce qui a pu être dit aujourd'hui. En tout cas, vous retrouverez vraiment tous ces principes. Une autre chose qui était importante, évidemment, aujourd'hui, et qu'on a déjà pu aborder ce matin avec Alain Poirier, même dans les trois interventions de ce matin, qui étaient en fait assez diversifiées, mais qui servaient des causes et des problématiques communes, puisque tous ces compositeurs, malgré des spécificités de langage qui sont tout à fait apparentes, ont malgré tout des trajectoires communes. Et quelque chose qui est important, Florent a beaucoup insisté aussi sur cette question, c'est la mise en place d'une esthétique de la perception. C'est comme ça qu'il l'appelle, en tout cas. J'espère qu'il ne va pas me reprendre. Et qui évidemment est très importante. Et il nous a semblé intéressant de pouvoir aussi avoir des avis un petit peu différents sur cette notion, qui ne soient pas forcément des avis de musicologue, parce qu'évidemment, la perception dans le sens musicologique ou musical est une chose, mais c'est aussi intéressant d'avoir l'avis de personnes très compétentes, mais qui viennent d'autres domaines de compétences. Effectivement, c'est ce que va nous proposer Jacques Gilbert. On est très, d'ailleurs très heureux de l'accueillir.
Merci.